Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. Mesdames, messieurs, bonjour. Uge signoroin, bonan tagon. Je m'appelle Dominique Siméon et je suis le responsable de la commission espéranto de la Fédération nationale de la libre pensée, ainsi que le président de la libre pensée des Yvelines et le représentant de la libre pensée à la commission de contrôle des élections du Congrès des peuples. Je vais vous faire une présentation partielle du sujet que j'étudie à l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, soit la libre pensée et l'espéranto. Je voudrais d'abord saluer la mémoire et l'action de Gilbert Lebec, un libre penseur espérantiste qui est décédé il y a un mois et qui a participé à mes travaux. Comme vous le savez sûrement, l'initiateur de la langue internationale ou encore de l'espéranto est Louis Lazar Zamenhof. Il édite la première grammaire en 1887, qui comporte 16 règles en tout aujourd'hui. Sa simplicité et son accessibilité feront que les premiers espérantistes dispersés de par le monde se retrouveront pour le premier congrès mondial de l'espéranto à Boulogne-sur-Mer en 1905. Mais dès 1904, le congrès mondial de la libre pensée à Rome votera un vœu en faveur de l'espéranto comme langue pour relier et pour émanciper les hommes. Et de nouveau en 1905, alors que la loi de séparation des églises et de l'État va être adoptée et dont on a fêté en décembre 2005 le centenaire ainsi que le retour au texte d'origine, comme de sa promotion en France et dans le monde, le Congrès mondial de la libre pensée réuni au Trocadéro à Paris émet un vœu en faveur de l'espéranto et de son apprentissage. Comme je le soulignais, le premier congrès universel des espérantistes sera traversé par le débat en faveur de la République. Et les laïcs espérantistes français enlèveront une strophe cléricale que Zamenhof devait lire. Mais en 1906, au Congrès mondial de la libre pensée à Buenos Aires, en Argentine, il est décidé de créer une société internationale espérantiste de libre penseurs. Dès le Congrès universel de Cambridge, en 1907, cette société est créée par les espérantistes des mouvements progressistes de l'époque, dont Mock et Fiblango. Elle existera jusqu'en 1914 avec comme journal La Libera Penso, la libre pensée. En 1923, elle réapparaît en Ligue internationale des libres penseurs avec comme journal La Liber Pensulo, le libre penseur, jusqu'en 1927. Alors qu'en 1925 est créée l'Internationale des prolétaires libres penseurs. Mais en fait, où sont les espérantistes libres penseurs? En 1921 est créé au Congrès universel de Prague Senatsietsa Associo Tutomonda, ou SAT, l'Association anationale mondiale, principalement par Eugène Lanty. Cette association, qui existe toujours, ne reconnaissait pas la neutralité de la langue et était favorable au débat politique. En ce sens, les espérantistes libres penseurs y étaient, et dès 1929, une section libre penseuse existe. Et ne sera plus animée après 1932 pour ce qui concerne l'entre-deux-guerres. Parallèlement, l'Union mondiale des libres penseurs dans les années 30 se réfère au Congrès mondial de 1904, dans un climat politique difficile. Vers 1935 est créé SAT Amicaro, ou l'ensemble des amis de SAT, l'association francophone de SAT dans laquelle agissent les libres penseurs. Dans les années 60, André Kobel, un libre penseur espérantiste important, joue un rôle essentiel au sein de SAT, SAT Amicaro, de l'Union rationaliste, de la libre pensée et aussi de l'Union mondiale des libres penseurs qu'il quittera vers 1970. Enfin, vers 1990, est née l'association Ateo, avec comme journal Ateismo, au sein de l'Association universelle d'espéranto. Ateo a pour but de réunir les athées et les libres penseurs. Revenons à la Fédération nationale de la libre pensée. en 2001, à son congrès national de Givors, une motion est votée et dit « Le Congrès national de la libre-pensée affirme la nécessité de promouvoir l'usage de l'espéranto, langue porteuse de valeurs universalistes et pacifistes, chère à la libre-pensée auprès d'institutions internationales, notamment l'UNESCO. » De même, en juillet 2005, au Congrès mondial de la libre-pensée à Paris, est votée une motion qui dit « Le Congrès mondial de la libre-pensée considère que la barrière des langues entrave l'échange direct d'idées, d'expériences et d'informations dans le combat pour la liberté de la pensée, contre l'obscurantisme, l'exploitation des croyances et des superstitions, et que, dans une perspective de progrès social, sans nuire à la diversité et à la richesse linguistique et culturelle, cette entrave doit être abolie par l'usage d'une langue libre de tout lien avec quelque puissance que ce soit, anationale, accessible et équitable. Estime que la mise en œuvre d'une solution accessible, équitable et efficace pour la communication linguistique entre les peuples fait partie des urgences de notre temps, il appelle à la prise en considération dans ce rôle de l'espéranto dont le champ d'application est déjà très étendu et qui a fait l'objet de nombreuses recommandations de personnalités et d'organisations parmi lesquelles l'UNESCO. Appelle ses adhérents et sympathisants à s'engager dans une action volontariste d'échange sans frontières et d'abolition rapide des barrières de langue afin de s'opposer efficacement à l'exploitation rationnelle de l'irrationnel, du mystère, de la crédulité, des superstitions, de la naïveté. Enfin, je vous lis la fin de la résolution espéranto du Congrès national de la libre-pensée à Metz en août 2005 qui dit « Ainsi, cette langue internationale permet des échanges sans frontières et abolit les frontières linguistiques à travers sa rationalité. Il apparaît de cette manière que cette fraternité linguistique est un moyen pour s'accorder sur des valeurs humanistes, athées et laïques. En ce sens, aborder la résolution des désordres mondiaux pour placer l'humain comme valeur essentielle de nos espoirs présents et futurs. À l'occasion du Congrès national de Metz, nous appelons les libres penseurs non espérantistes à faire le pas de s'affranchir des frontières linguistiques nationales et s'engager dans l'apprentissage de la langue internationale au sein des groupes associatifs historiquement liés à la Fédération nationale de la libre pensée. Il apparaît aussi nécessaire, dans l'ordre historique actuel, que la Fédération nationale de la libre pensée réserve à l'espéranto une place dans sa structure sous la forme d'une commission afin de créer un espace organisationnel et d'appuyer les actions locales, nationales et internationales de la libre pensée. On pourra nommer cette commission Commission Espéranto. Nous venons de parcourir un peu plus d'un siècle de relations entre le mouvement espérantiste et de la libre-pensée. Je vais maintenant vous parler de mon travail de recherche au sein de l'Institut de recherche et d'études de la libre-pensée, ou IRELP. Cet institut a été fondé à l'initiative de la Fédération nationale de la libre-pensée en juin 1999. Il vise à réunir, entre autres, les archives nationales de la libre-pensée. En ce sens, les recherches concernant l'espéranto sont significatives. Nous possédons peu de documents. Prenons les congrès mondiaux, celui de Buenos Aires en 1906. Pour le moment, je n'ai que des données indirectes, mais aucune source sur le congrès lui-même qui est essentiel dans la décision de créer la Société internationale de libre-penseurs. Ce que j'observe sur un siècle d'un mouvement que l'on a souvent occulté et dont les sources restent à découvrir, voire ont disparu par les aléas du temps, c'est la difficulté de faire émerger ce type d'objet historique. De la même manière, je tente d'élaborer une prosopographie des libres penseurs espérantistes, mais je n'accède qu'à ceux qui ont des responsabilités dans les structures associatives ou officielles. Mais la majorité des membres reste inconnue. Quand ils sont nommés rarement, il le fait qu'ils soient libres penseurs ou espérantistes apparaît. Ce qui pourrait me faire avancer, cela serait des archives personnelles. Mais là encore, celles-ci, lors de la disparition d'un membre de la famille, sont dispersées et s'il s'agit de documents en espéranto, il est encore plus difficile de les voir conservés. Le problème est encore plus important au niveau international. Le siècle dernier a vu de nombreuses formes de pouvoir antidémocratique, ce qui fait que la mémoire d'un ouvrier hongrois espérantiste et libre penseur entre 1920 et 1940 a peu de chances d'avoir été conservée. Je vais quand même vous donner un exemple qui offre un peu d'espoir. En 1904 et 1905, au Congrès mondial de la libre pensée, le représentant pour la Bohème est Karel Pellant. Il soutient le vœu concernant l'espéranto et à première vue, aucune autre information sur ce libre penseur espérantiste. En rentrant en contact avec un espérantiste japonais de plus de 90 ans et traducteur de la langue tchèque ainsi que d'écrivain tchèque, ce dernier m'indique qu'un ouvrage en 1910 mentionne la libre pensée et les libres penseurs tchèques. Ainsi, Kurisu Kei m'interroge à ce sujet. Je contacte un espérantiste tchèque qui, le jour même, édite en espéranto une biographie de Karel Pellant sur Wikipédia. Mais là encore, les recherches concernent un auteur connu pour lequel il demeure des traces manuscrites et elles donnent des résultats. Je me permets de vous raconter ce travail de recherche car il apparaît qu'à la fois la mémoire du mouvement espérantiste a souvent été censurée, masquée, ainsi que celle des libres penseurs. L'IRELP s'est donné comme but de réunir les archives nationales et également des archives internationales, dont celles des espérantistes libres penseurs. Car il est nécessaire d'offrir un lieu de conservation, de consultation des sources souvent rares. L'actualité nous montre que la mémoire, entre autres, du mouvement ouvrier est sacrifiée au profit d'une histoire officielle que l'on veut légiférer. L'enjeu de tels travaux est capital quand on sait que des œuvres ont disparu sous la domination dogmatique des croyances. Notre époque connaît une multiplication des moyens mémoriels ainsi que d'un champ géographique étendu. Mais en même temps, il nous appartient d'agir en conséquence pour que la connaissance, les sources ne disparaissent pas ou soient mises de côté. L'espéranto est une langue vivante, le mouvement espérantiste a une histoire, il nous appartient de nous en saisir pour faire vivre leur réalité dans le monde qui est en train de se construire. Ainsi que l'on a pu le voir, la libre pensée et l'espéranto ont une histoire commune et un avenir en commun. Je vous ai tracé les grandes lignes de mes recherches, mais il me reste à trouver encore des documents. J'en profite pour vous dire que si vous disposez ou connaissez des archives liées à la libre pensée et aussi à l'espéranto, veuillez contacter l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée au siège de la Fédération nationale. De la même manière, si vous désirez des informations complémentaires sur la libre pensée et l'espéranto, veuillez contacter la commission espéranto de la Fédération nationale de la libre pensée au 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques, 75-005, Paris. J'en profite pour vous lire la rétrospective sur une résolution centenaire de la libre pensée en faveur de l'espéranto. À cette époque, en 1905, le grand géographe Élisée Reclus avait déjà pu constater et noter dans son ouvrage magistral « L'homme et la terre » les progrès de l'espéranto sont rapides et l'idiome pénètre peut-être dans les masses populaires que parmi les classes supérieures dites intelligentes. C'est, d'un côté, que le sentiment de fraternité internationale a sa part dans le désir d'employer une langue commune, sentiment qui se rencontre surtout chez les travailleurs socialistes, hostiles à toute idée de guerre, et de l'autre, que l'espéranto, plus facile à apprendre que n'importe quelle autre langue, s'offre de prime abord aux travailleurs ayant peu de loisirs pour leurs études. Élisée Reclus ajoutait cette constatation toujours actuelle. Chose curieuse que cette langue nouvelle est amplement utilisée déjà. Elle fonctionne comme un organe de la pensée humaine, tandis que ses critiques et adversaires répètent encore comme une vérité ardente que les langues ne furent jamais des créations artificielles et doivent naître de la vie même des peuples, de leur génie intime. Ce qui est vrai, c'est que les racines de tout langage sont extraites en effet du fond primitif et l'espéranto en est, par tout son vocabulaire, un nouvel et incontestable exemple. Un siècle après les premiers pas de l'espéranto en France et dans le monde, Internet donne une impulsion et ouvre de nouvelles perspectives à cette langue conçue pour rendre la communication linguistique plus accessible, plus facile, plus équitable entre les peuples. J'ai tiré cet extrait des actes du Congrès mondial de la libre pensée à Paris en 2005, édité en décembre 2005, que vous pourrez vous procurer au siège de la libre pensée. Je vous remercie. Au revoir. Gis revido.